Bonjour, je suis Laurent Marsic, chroniqueur jeunesse dans Laissez-vous tenter. RTL et Albin Michel Jeunesse s'associent pour une deuxième saison et ouvrent la grande bibliothèque à histoire. Voici un mythe, celui de King Kong, de Fred Bernard et François Rocca, lu par Sonia Marcotte, bibliothécaire jeunesse à la médiathèque Théodore Monod de Saint-Gratien dans le Val d'Oise. Voici la première partie de l'histoire.
Misère de misère. Quelle tristesse. Quelle désolation. Je m'ennuie. J'ai faim. D'ennui et de faim, je crève. J'aimerais qu'on me remplisse le ventre. Toujours des huîtres. Encore des huîtres. Ainsi soupirait King Kong, chaque jour, depuis des années et des années.
Plus que moi ici. Moi et mon estomac qui couine et crie famine. Si je ne trouve pas autre chose à manger, fou, je vais devenir. En bête furieuse, me transformer.
Cette île du Pacifique, de bonne taille comparée aux îlots perdus dans l'océan, avait pourtant été généreuse. Kong, lui, était un géant, issu d'une famille de géants réduite à quelques membres, mais avec d'énormes appétits. Obligé de partager les richesses de cette terre avec d'autres tribus, moins gourmandes, mais beaucoup plus nombreuses, celles des humains, qui, eux, exploitèrent et accaparèrent tout. Rien ne m'a été laissé, pas même ma compagne, pas même mes fils. Restent les oiseaux, les humains et moi. Un miracle que je sois toujours debout, s'étonnait chaque jour Kong. Et c'est grâce à eux. Ils ne m'aiment pas, non. Ils m'adorent et m'apportent des sacrifices. Ils me craignent, moi leur idole. Moi aussi j'ai peur d'eux. Seul je reste, et innombrables ils sont. Je suis le roi, l'unique, mais eux gouvernent. Moi je subis, j'enrage dans ce territoire où ils m'enferment.
Sortant des eaux, Kong avalait comme des cacahuètes de pauvres noix tombées de cocotiers rachitiques, jusqu'à l'horizon où il aperçut une chose étrangère et terrifiante. Il connaissait les chétives pirogues à balancier des hommes, qu'à l'occasion il écrasait entre ses doigts, mais n'avait jamais vu de navire. Kong se réfugia derrière des rochers afin d'épier ce qui approchait de son île. Il humait de loin. Le bateau apportait dans son sillage une odeur inhabituelle, un parfum nouveau, mais qui lui rappelait malgré tout, quoi donc, le passé, un bonheur perdu.
Quelle île étrange, dit Anne. D'un côté, elle semble si triste, déserte, dévastée. De l'autre, les montagnes et les collines sont verdoyantes et éclatantes de beauté. « De quel côté allons-nous tourner votre fameux film, Monsieur Dunham ?»«
Côté vert, ma chère Anne, en accord avec vos yeux. C'est la montagne rocheuse en forme de crâne, là-haut, qui a donné son nom à cette île. »« Prêt à accoster, Capitaine Englehorn ?»«
Hé, Jack !» lança le capitaine. « Que les hommes préparent une chaloupe sans tarder !»
Jack Driscoll était le second du capitaine et, dès le début du voyage, le premier à plaire à Anne Darrow. Il était à peine plus âgé qu'elle et ils avaient, pendant la traversée, beaucoup parlé de leur vie difficile. L'Amérique subissait une grave crise économique, laissant quantité de familles dans le besoin, dans les rues et sur les routes. Anne et Jack étaient célibataires et tous deux avaient une vieille maman à nourrir.
Carl Dunham, le réalisateur, était sans famille et seule sa passion comptait pour lui. Il rêvait de tourner un film à succès sur cette île du crâne, inconnue des tracés de navigation. Une île dessinée à la main sur une vieille carte qu'il avait achetée à un vieillard miséreux, un certain O'Murphy, une nuit sans lune à la taverne du Homard Manchot. Ce capitaine avait découvert l'île il y a fort longtemps. Il la décrivit à Carl Dunham comme splendide et préservée. Il la compara à un paradis et un sanctuaire des temps préhistoriques abritant une faune extraordinaire. Carl Dunham avait rencontré Anne Darrow, comédienne au chômage, errant dans New York d'un théâtre à un autre, désœuvrée et affamée.
Elle lui avait tapé dans l'œil et lui avait offert un dîner gargantuesque, puis le rôle d'une belle aventurière traversant une nature indomptée et hantée par des bêtes féroces. Il ne pensait pas si bien dire. Attiré par des fumées s'élevant de la plus belle anse de l'île, le capitaine Englehorn, Anne, Carl, Jack, des matelots fusils à l'épaule, ainsi qu'Aka, leur jeune guide maori, posait pied à terre sous des nuées d'oiseaux de mer. Tout à coup, un groupe d'hommes bardés de lances et d'arcs, coiffés de plumes de toute taille, traversa le couvert des arbres et s'avança vers eux sur la plage. Le plus grand et le plus fort avait l'air d'être le chef. Nyapat était son nom.
« J'espère que ce ne sont pas des peintures de guerre !» murmura Anne à Jack.
Jack lui prit la main. Elle la serra fort. Aka, leur guide, entama la discussion avec aplomb face à ce chef impressionnant. Il traduisait les paroles de Carl. Il venait de loin, en ami. Ils ne resteraient pas sur leur île. Ils repartiraient très bientôt. Ils avaient juste besoin d'eau, d'un peu de nourriture pour continuer leur voyage.
« Inutile de parler du film. Ces sauvages ne vont pas au cinéma, » murmura Carl.
Quand ils entrèrent dans le village, Anne fut enchantée de voir les femmes et les enfants si souriants, plus rassurants que les guerriers de la plage. Toutefois, ils ne semblaient pas heureux. Sans doute pressés d'en finir, les habitants de l'île escortèrent les étrangers dans la forêt près d'une source d'eau douce. Ils les aidèrent à cueillir des fruits, à sortir des racines comestibles de la terre. Carl demandait à Aka
« Acclame donc deux ou trois de ces petits cochons noirs au chef !»
Quand Jack remarqua ce haut mur, invisible de la mer et de la plage, et qui semblait couper l'île en deux.
« Derrière, King Kong !»
dit Aka, répétant la réponse de Nyapat. Et personne ne chercha à comprendre. Sur le bateau, la discussion battait son plein. Carl n'avait repéré aucune bête particulière pendant la cueillette et il était déçu. En fin de compte, d'autres îles connues, pas si lointaines, auraient très bien pu convenir pour son film. Le capitaine Englehorn se méfiait des hommes de la tribu, bien plus nombreux que l'équipage au complet. Jack détestait la façon dont le chef Nyapat avait lorgné Anne. Quant à Anne, elle voulait qu'on donne des médicaments aux enfants malingres et souffrants. Il serait temps d'en reparler après une nuit de sommeil. Peu avant l'aube, un cri déchira le voile étoilé de la nuit. Le capitaine, Carl, Jack et tous les autres se levèrent d'un bond. Anne avait disparu. On ne retrouva que quelques plumes sur le sol de sa cabine, puis sur le pont du navire, d'où Aka pointait du doigt une pirogue touchant terre. Devant sa longue vue, le capitaine écarquilla les yeux sur Anne, bâillonnée et ligotée, se débattant dans les bras de grands guerriers qui, d'un bon pas, suivait Nyapat en direction du village.
« Chaloupe ! Fusil ! Jack ! Carl ! À vos pistolets ! Pas une seconde à perdre !»
s'égosilla le capitaine. Il ne fallut pas leur dire deux fois. Et c'est en courant péniblement dans le sable épais qu'ils remontèrent la plage, traversèrent le village désert, pénétrèrent dans la forêt, arrivèrent en sueur et tremblant au pied de l'immense muraille. Ils stoppèrent net, en entendant la population rassemblée en son sommet, avec le chef Nyapat, face au soleil levant qui scandait
« King Kong ! King Kong ! King Kong ! »
Quand le capitaine ordonna qu'on escalade les passerelles de bambou, Jack était déjà engagé sur une des échelles comme une araignée le long de son fil. Terrifiés, tous découvrirent Anne, inerte, attachée à un poteau sur une estrade construite de l'autre côté du mur. Des fruits, des racines, des volailles et des porcelets emplissaient des paniers tressés et des plateaux de bois à ses pieds. Comme une offrande. Le paysage devant elle était vide et désolé, parsemé d'arbres morts ou rabougris. Il contrastait avec la forêt luxuriante qu'il venait de traverser. Pistolet au poing, Jack voulait à tout prix s'élancer vers Anne, quitte à dégringoler la paroi de la muraille. Mais Carl et le capitaine le retenaient fermement. Équipage et indigènes n'étaient pas les seuls à observer Anne évanouie et ligotée à son poteau.
King Kong ! King Kong ! King Kong !
Pétrifié, allongé derrière une colline dénudée, son crâne faisant comme un gros rocher noir au milieu d'autres rochers noirs, Kong était hypnotisé par la jeune femme.
envoûté par son parfum. Il soupira.
Que faire ? Tant d'hommes encore. Ceux de l'île, plus ceux du bateau. Combien en tout ? Unis sont-ils ?
Et la femme du bateau.
Que faire ?
Que faire ? Habituellement, King Kong dévalait la colline dès qu'il entendait prononcer son nom. Il dévorait simplement les offrandes en 3 ou 4 bouchées et repartait dans ses montagnes saccagées. Une étincelle dans l'esprit de Karl. Les gens d'ici se protégeaient de quelque chose de gigantesque avec ce mur colossal. D'un côté, le jardin d'Éden préservé où les hommes vivaient prisonniers d'eux-mêmes. De l'autre, un enfer ruiné par on ne sait qui ou on ne sait quoi. Aucune étincelle dans la tête de Jack. Un brasier de frayeur pour Anne et de fureur à l'attention de Dunham, du capitaine et des hommes qui l'empêchaient d'agir.
King Kong ! King Kong ! King Kong !
Soudain, Kong se décida. Il se redressa lentement, se déplia, monumental au-dessus de la colline. Son ombre arriva jusqu'au pied de la pauvre Anne. Nyapat leva les bras au ciel. Aussitôt, les voix de villageois se turent. Les hommes blancs cachés derrière leurs barrières de palmes et de bambous devinrent plus pâles encore. Silence total. C'était une évidence pour Karl à présent. Des singes géants comme celui-là avaient anéanti la végétation de cette île magnifique vantée par O'Murphy. Kong s'avançait lentement parmi les arbres morts, méfiant. Se souvenant des picotements désagréables que pouvaient lui causer les lances et les flèches des hommes.
Boum, boum, boum.
À chaque pas, le sol tremblait, la muraille tressaillait. Les hommes noirs frissonnaient, les hommes blancs se liquéfiaient. La litanie reprit de plus belle lorsque Kong s'approcha du corps inanimé d'Anne. Il se pencha doucement sur elle. Voici le moment qu'elle choisit pour ouvrir les yeux. Les villageoises, lorsqu'elle lui était sacrifiée, hurlaient et gigotaient comme des furies. Anne ne dit mot, ne bougea même pas, tandis qu'émanait d'elle cette délicate odeur qui ensorcelait Kong. Il défit ses liens, sans la brusquer. Il la souleva doucement dans sa main et repartit, délaissant les autres offrandes. Il n'avait d'attention que pour Anne. Pour ses cheveux blancs, son parfum et son regard vert, il n'avait jamais, jamais, jamais ressenti ça. Dès qu'il l'avait senti au loin, Anne était devenue son obsession et à présent, son bien le plus précieux.
« Que ressent cette créature ?» s'interrogeait Kong.
« Quel âge peut bien avoir ce singe extraordinaire ? Depuis quelle époque vit-il ici ?» Anne, qui s'interrogeait, était affolée, bien sûr. Mais chez cette jeune femme de 19 ans, la part d'enfance qui n'avait peur de rien désirait faire confiance à cette immense peluche. S'il avait voulu la tuer, il l'aurait déjà fait. Kong, surpris par le flegme de sa captive, se sentait apaisé comme jamais. Anne connaissait et aimait les grands singes pour les avoir observés de près, des heures durant, avec son père au zoo de New York. Leurs regards et leurs attitudes, leur enfermement la bouleversaient enfin.
« Papa, ouvre la cage, s'il te plaît, qu'ils puissent rentrer chez eux !»«
Enfin, Anne, ces animaux sont dangereux, et comment feraient-ils pour gagner l'Afrique depuis Manhattan ?»«
Ils n'ont pas l'air si féroces, il y a plein de bateaux sur l'Hudson River qui pourraient les ramener là-bas. »
Anne n'avait jamais été froussarde, et avait toujours réponse à tout. « Voilà le problème. » soupirait souvent son père. Il était parti à la guerre et n'était pas revenu. Puis, Anne avait grandi auprès d'une mère triste qui répétait sans cesse
« Misère, misère de misère !»
Réunis à bord en catastrophe, l'équipage organisa rapidement l'expédition pour sauver Anne des mains du monstre. Cette fois, tous les matelots s'armèrent. Karl prit son revolver, sa caméra et toutes ses bobines de films vierges. Il jubilait intérieurement.
Désormais, il avait le sujet de son film, La Belle et la Bête. Un carton assuré au box-office.
Ils emportèrent également tous les bocaux de chloroforme.
Jack en voulait à Carl d'avoir laissé faire les indigènes. Il se posait aussi 1000 questions. Pourquoi Anne ne criait-elle pas? S'était-elle évanouie pendant son enlèvement? Avait-elle été assommée? Droguée? Et il s'étonnait. Pourquoi n'y avait-il pas de vieux dans le village? Ni de jeunes enfants, alors que les couples étaient dans la pleine force de l'âge.
Le cœur battant, à la fois fascinée par Kong et inquiète de son comportement, Anne respirait à grand-peine dans la main qui la retenait. Elle savait que Jack et les autres allaient tout faire pour la retrouver et la sauver. Kong foulait un vaste cimetière, d'innombrables sépultures recouvertes de pierres, côte à côte, serrées. Certaines grandes, d'autres très petites.
Qu'imagine cette femme ? S'interrogeait King Kong. Que j'ai tué tous ces gens ? D'ingurgiter ces huîtres plates, je me contente. En horreur, j'ai ces huîtres, comme j'ai horreur leur offrande humaine d'avaler.
Sur les collines alentour, à perte de vue, s'étendaient d'anciennes cultures en terrasse, des terres aujourd'hui stériles, brûlées. Sur ce qui avait dû être des vergers, des troncs noirs et morts sortaient de terre. Dans un nuage de poussière, il les écrasait, captivé par ce qu'il tenait dans sa main, émerveillé qu'une aussi gracile créature lui tombât ainsi du ciel.
« Oh, ne t'inquiète pas, je ne te mangerai pas. Si belle tu es, si bon tu sens. Certaines fleurs qui poussaient là autrefois, tu me rappelles. Ces fleurs que ma compagne aimait tant. »
Il passait à présent devant les débris de canaux d'irrigation et de grands bassins asséchés qui avaient alimenté en eau des cultures considérables. Plus loin, Anne vit des mines et des carrières abandonnées. Elles avaient été creusées partout sur les hauteurs, ravageant la végétation. Plus loin encore, King Kong enjamba une imposante cité en ruine qui avait dû accueillir une population nombreuse.
Ainsi s'achève la première partie de King Kong de Fred Bernard et François Rocca, lue par Sonia Marcotte, bibliothécaire jeunesse à la médiathèque Théodore Monod de Saint-Gratien, dans le Val-d'Oise. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les podcasts RTL sur l'application RTL et vos plateformes favorites. À très vite pour la suite et fin de l'histoire.